c'est quand je demande à quelqu'un de prêcher, ça n'est pas parce que je n'ai rien à dire. J'ai des sermons en avance comme vous ne pouvez pas vous imaginer. À chaque fois que, tous les jours, j'étudie la parole et tous les jours je me dis mais comment est-ce que je peux faire pour le leur donner. Je crois que les enfants, c'est le moment qu'ils aillent dans la salle à côté. Ceux qui souhaitent rester sont bienvenus. Mais parfois, il me semble bien que telle ou telle personne prêche. Et la dernière fois, il me semblait bon que ceux qui avaient été à la conférence de Billy Brim partagent avec nous. Et je dois dire que c'était bien plus guidé que je ne le pensais. Bien plus guidé que je ne le pensais. Et cette fois-ci, j'ai demandé à Martin Largent de partager avec nous ce qu'il a à cœur sur un sujet. Et je n'avais pas réalisé que sa famille serait là, pour vous dire la vérité. Donc, ce n'est pas du sur-mesure. Hein, Mais en même temps, eh bien, je crois que ça va l'être. Je crois que ça va l'être. Nous allons tous recevoir quelque chose qui est sur son cœur. Et vous savez, ce que j'apprécie, c'est la différence de personnalité qu'il y a entre tous ceux qui interviennent. Il n'y en a pas un qui se ressemble. Et combien nous sommes riches. C'est la diversité, ça permet aux uns et aux autres de s'identifier avec telle et telle et telle et telle personne. Et puis aussi, je suis le style de personne qui ne croit pas que le pasteur est la seule personne à entendre de Dieu. Bon, bah écoutez, voilà, je ne me vexerai pas, c'est ok. Alors, pas de pression, Martin. Je vais t'inviter à venir et j'ai hâte d'entendre.
Et c'est avec grand plaisir et c'est un honneur pour moi de pouvoir apporter la parole. Donc merci pasteur pour l'opportunité et voilà, de pouvoir apporter la parole de Dieu devant ma famille naturelle et devant ma famille spirituelle. Donc il y a une vraie valeur quand on apporte la parole. Quand on apporte, on voit que ça c'était il y a quelques années, donc on voit qu'avec le Seigneur on voit de gloire en gloire. et donc c'est un vrai privilège pour moi. Vous savez, il y a une vraie valeur quand on apporte la parole, pas à des collègues de travail, pas à des gens qui ont un point commun avec nous, mais vraiment avec des gens qu'on aime. Et la famille que Dieu me donne, que ce soit ma famille naturelle ou ma famille spirituelle ici à l'église, ce sont des gens que j'aime. Et vous savez, quand je pensais à ce message à l'église, je pensais à l'image que le monde a de l'église. Et souvent, les gens dans le monde pensent à l'église comme étant des gens qui semblent se suffire à eux-mêmes, des gens qui pensent être parfaits. Mais on sait que l'église de Dieu, l'église que Dieu s'est formée, le peuple que Dieu s'est formé ici sur terre, ce ne sont pas des gens parfaits, ce sont des gens qui ont été rachetés à la croix et qui d'un même cœur, en esprit et en vérité, cherchent Dieu. Ils ont trouvé Dieu, ils ont été transformés et ils cherchent de jour en jour à se rapprocher de Dieu, à comprendre qui il est, à comprendre sa parole. Et vous savez, les idoles dont il était question, que Lance a mentionné, une idole, ça, c'est un terme extrêmement religieux pour certains, on ne comprend pas forcément ce que ça veut dire dans notre vie de tous les jours. Mais dans notre vie, on est tous amenés à avoir des idoles. Une idole, ce n'est pas une statuette en bois qu'on adore ou quoi que ce soit. Une idole, c'est tout ce qu'on élève au-dessus de Dieu, au-dessus de qui Dieu est. S'il y a quelque chose dans ma vie qui a plus d'importance que Dieu, alors cette chose est une idole. Et nous sommes appelés, nous avons été créés pour être aimés de Dieu et pour l'aimer en retour, pour le mettre à la première place. Et on va voir que c'est ce que l'Église expérimente, c'est de mettre Dieu à la première place. Qu'est-ce que ça produit ? Ça produit la vraie liberté. Beaucoup de gens pensent que quand je mettrai Dieu à la première place, alors ça y est, ma liberté, ça y est, j'ai plus de liberté. Ça y est, je peux plus m'amuser, ça y est, je peux plus faire ce que je veux, je suis dans un carcan religieux, entre guillemets. C'est faux. Quand je mets Dieu en premier, j'expérimente la vraie liberté parce que Christ est venu pour que je sois libre, pour que j'aie la vie et pour que je l'aie en abondance. Et c'est le premier passage de la Bible que je veux partager avec vous, c'est Galates chapitre 5, verset 1. Vous savez, en préparant ce message, je me disais, si l'Église réalisait la valeur du message qui lui a été donné, la valeur de ce message de l'Évangile qui peut rendre libre les gens de n'importe quelle culture, avec n'importe quel passé, de n'importe quelle confession, de n'importe quel continent, ce message qui nous a été donné est universel. Et il a la puissance de libérer. La Bible dit que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle, presque trop bonne pour être vraie, que Dieu a pris tes péchés passés, présents et futurs, et c'est Jésus qui a payé pour tes péchés à la croix. Que Dieu a fait en sorte que tu sois réconcilié avec lui pour l'éternité. C'est ça l'Évangile. Et ce message qui nous a été donné a de la valeur. Et cette Église dont nous faisons partie, c'est la famille de Dieu. La Bible dit que c'est la maison du Dieu vivant. Il n'y a aucune autre religion, et moi je ne me classe pas dans une religion, mais il n'y a aucun autre mouvement, aucune autre religion qui n'annonce ce message, qui n'a ce message qui apporte la vraie liberté. Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et il est venu bâtir sa maison sur terre, et sa maison, c'est l'Église. Et je pense que quand on réalise la valeur du message, c'est merveilleux ce message qui nous a été donné, ce message universel de salut, ce message extrêmement puissant, qui peut libérer les captifs, qui peut rendre la vue aux aveugles, spirituels ou naturels. Quand on comprend ce message, alors c'est avec bien plus de joie, d'enthousiasme, de passion, que l'on va servir le corps de Christ. Le corps de Christ qui est l'Église. C'est un tel privilège. Vous savez, est-ce que vous savez que ça ne va rien changer? La manière dont Dieu vous voit ne change pas si vous allez plus à l'Église que quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas à aller à l'Église pour plaire à Dieu. Dieu vous aime tel que vous êtes, que vous alliez à l'Église ou que vous n'y alliez pas. Ça n'est pas une obligation. Et si vous vous sentez obligé d'aller à l'Église, il faut revoir votre relation avec Dieu, qu'elle n'est pas basée sur vos performances, sur ce que vous faites ou sur ce que vous ne faites pas. Dieu vous aime de manière inconditionnelle. C'est cet amour inconditionnel qui a été donné à l'Église et Dieu nous a équipés à la croix, nous a équipés, c'est au passé, il nous a équipés à la croix pour que nous puissions manifester cet amour inconditionnel au monde. Un chrétien, c'est le défenseur de l'amour inconditionnel de Dieu. On doit rappeler aux gens à quel point ils sont aimés. Nous devons défendre cet amour inconditionnel qui est attaqué et qui n'est pas compris par ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile. Et quand on comprend ce message, alors avec quelle joie, avec quelle passion, on se réunit le dimanche matin pour adorer ensemble. Et l'Église, vous savez, souvent, je réfléchissais, je me disais, tiens, on dit souvent, je vais à l'Église le dimanche matin, comme si, chez moi, je n'étais pas à l'Église. Et on a chanté tout à l'heure, le temple, on adore Dieu en esprit, en vérité, dans son temple. Le temple, Jésus a dit, un jour viendra, et il est déjà là, parce que Jésus était déjà sur terre quand il a parlé cette parole, et il est déjà là, où vous n'adorerez ni plus sur une montagne, plus dans un lieu, plus dans un temple bâti de main d'homme, mais où vous pourrez adorer Dieu en esprit et en vérité. Et l'esprit et la vérité résident en nous qui avons accepté l'Évangile. Nous sommes, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu est venu résider en chacun d'entre nous par ce que Jésus a fait à la croix. Mais c'est énorme, je veux dire, il n'y a pas d'autre message. Ça a tellement de valeur, c'est vraiment inestimable ce qu'on a reçu. Et on passera le reste de notre vie à découvrir la bonté de Dieu, à goûter à quel point Dieu est bon. Amen. Donc le premier passage que je voulais partager avec vous, c'est Galates chapitre 5, verset 1. Alors, j'aime la parole de Dieu. Donc on va voir des passages, mais je vais tous vous les lire pour qu'on suive ensemble. Donc Galates chapitre 5, verset 1 dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Le mot affranchi veut dire qu'il nous a rendus libres, qu'il a fait tomber nos chaînes. Quand on met Dieu en premier, on ne retombe pas sous un esclavage, on expérimente la vraie liberté. Et le monde nous fait croire que quand on sert Dieu, alors on va perdre notre liberté. C'est faux. On perd notre esclavage. et on gagne la vraie liberté en Dieu. Et ça, je peux vous l'attester dans ma propre vie, à quel point ça a été le cas. Plus j'avance avec Dieu, plus je suis libre. Plus j'avance avec Dieu, plus je sais à quel point il m'aime, plus j'ai de paix. Je sais que je suis sauvé pour l'éternité, que je suis aimé par mon Dieu sans condition. Et quand je sais, vous savez, le livre de Jacques apporte beaucoup de confusion parfois chez les chrétiens. Et j'ai appris cette semaine que Martin Luther, vous m'avez même le déchiré Jacques de la Bible, il a essayé d'enlever ce livre de la parole de Dieu parce qu'il pensait qu'il n'était pas inspiré. Mais en étudiant ce livre, j'ai réalisé que Jacques, en fait, parle, il compare, à un moment il dit, vous savez, si l'esprit sans le corps n'a pas de vie. Le corps sans l'esprit n'a pas de vie. Et la foi sans les actes, sans les œuvres, est morte. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, nous avons été construits, bâtis, c'est dans notre ADN, d'agir selon ce que nous croyons. Donc, si je vous dis là, maintenant, l'autel est en feu, on va tous mourir, l'autel est en train de brûler et tout ça, si vous me croyez, vous allez sortir de la salle. Si vous ne me croyez pas, ce ne sera pas suivi d'action. Donc James n'est pas dans un... c'est en anglais qu'on dit James. Jacques n'est pas dans un cercle de condamnation. Il ne veut pas condamner en disant, tiens, tu vois, tu n'as pas les œuvres, alors tu n'as pas les actes. Non, il dit, si tu as la foi, il y aura forcément des actes qui suivront. Comme, est-ce que je fais un effort pour être vivant? Est-ce que je fais un effort pour respirer? Pour me réveiller le matin? Pour m'endormir le soir? C'est naturel, je ne fais aucun effort pour rester vivant. Quand je crois dans le Fils de l'homme, la liberté est produite automatiquement. Quand je crois en Jésus, en ce qu'il a fait à la croix, quand je l'accepte en moi, alors c'est automatique qu'il y aura des œuvres qui en suivront. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté. Pourquoi est-ce que Paul, qui écrit l'épître aux Galates, nous dit « Tenez ferme dans cette liberté » parce que c'est un combat. Parce qu'on a toujours tendance à revenir sous une culpabilité, à revenir dans un système méritoire, alors que Jésus nous a affranchis. Vous savez, quelqu'un sans Dieu, quelqu'un qui n'a pas Jésus dans sa vie, il est dans un système méritoire. Tout ce qu'il fait dans sa vie, c'est pour soit essayer de gagner l'approbation d'un Dieu, l'approbation d'autrui, l'approbation de soi, l'approbation de la société. Dieu nous a affranchis de ce système méritoire. Nous sommes dans un système où nous n'avons pas à mériter la faveur de Dieu. Vous n'avez pas à venir à l'église pour être aimé de Dieu. Vous n'avez pas à donner vos dîmes pour être aimé de Dieu. Mais quand vous réalisez à quel point Dieu vous aime, alors vous le faites en esprit et en liberté, et en vérité. Et vous êtes vraiment libre. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. C'est à vous, la responsabilité vous incombe de ne pas vous replacer sous un esclavage quelconque, parce que vous avez été affranchi et rendu libre à 100%. Et est-ce que vous savez, donc je vais sauter à Éphésiens 2, chapitre 12 à la fin du chapitre. Éphésiens chapitre 2, on va voir ce que Dieu a fait lorsqu'il a bâti son église. Est-ce que vous savez que cette église, l'église avec un grand E, universelle, à travers le monde, n'a pas été bâtie par la main de l'homme. Elle a été bâtie par Dieu et rien ne pourra la détruire. Ça fait plus de 2000 ans que cette église, que ce peuple de Dieu a été formé et que nous continuons à adorer Dieu, à venir, à se rassembler tous ensemble pour adorer le seul Dieu vivant et le seul chemin, le seul nom qui a été donné à l'être humain pour être sauvé, qui est le nom de Jésus-Christ. Et quand on place ce nom de Jésus, quand on place Dieu le Père en première position dans notre vie, alors on expérimente la vraie liberté, je le répète. Et encore une fois, on n'est pas un peuple parfait. Si vous trouvez, je connais quelqu'un qui dit souvent, si vous trouvez une église parfaite, n'y allez surtout pas, parce qu'au moment où vous franchirez la porte, elle ne le sera plus. Si une église est constituée d'êtres humains, elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite. C'est un groupe d'êtres humains rachetés qui cherchent la face de Dieu, qui cherchent à adorer Dieu ensemble. Éphésiens chapitre 2, versets 12 à fin, qui dit « Souvenez-vous qu'à ce moment-là, donc autrefois, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Ça, c'était notre condition avant que Jésus arrive. Nous étions extérieurs à la promesse de Dieu. Nous ne faisions pas partie du peuple d'Israël, du peuple choisi de Dieu. Maintenant, nous faisons partie, au travers de ce que Jésus a fait à la croix, du peuple de Dieu. Nous lui appartenons. Est-ce que vous savez que Dieu est un Dieu jaloux ? J'ai écouté un message cette semaine et j'ai trouvé ça extraordinaire. L'un des noms de Dieu, il a beaucoup de noms, l'Éternel qui guérit, l'Éternel, le fils de Jenny s'appelle Emmanuel, ce qui veut dire que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, il n'est pas contre nous. Et Dieu a beaucoup de noms et l'un de ces noms, c'est le Dieu jaloux. Et nous, on classe souvent immédiatement le mot jaloux dans un... Voilà, ça, c'est pas bien, la jalousie, c'est pas bien, c'est un péché. Si on convoite ce qui ne nous appartient pas, c'est un péché. Dieu est jaloux pour ce qui lui appartient. Et c'est l'Église. C'est nous. Dieu est jaloux pour nous, pas contre nous. Dieu est le péché, parce qu'il sait que le péché nous détruit, nous fait du mal. Ultimement. Donc verset 13 maintenant. « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, ça s'adresse à l'humanité entière. Vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. » C'est une invitation qui est étendue à l'humanité entière. Si vous voulez vous rapprocher de Dieu, acceptez ce que Jésus a fait à la croix, par le sang de Christ. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un seul et qui a renversé le mur qui les séparait, qui était la haine. Vous savez, à l'époque, en Israël, où Jésus est né et a fait son ministère, les Juifs se réunissaient entre Juifs. Il était hors de question qu'il y ait un Samaritain ou à part des conditions extrêmement sévères, mais il était presque impossible que quelqu'un d'une autre nation, d'un autre peuple, rejoigne les Juifs dans leur culte de Dieu. L'Église a rassemblé le peuple de Dieu et le peuple qui était extérieur à Dieu. L'Église, elle contient, elle fait partie de l'Église tous les peuples qu'il y a sur cette terre. C'est un groupe, c'est une belle chose, l'Église. C'est une chose merveilleuse où Dieu agit. Et encore une fois, c'est la maison du Dieu vivant qui rassemble des gens de toutes les nations, des gens de tous les passés, des gens de toutes les cultures. Elle rassemble, parce que nous sommes maintenant citoyens des cieux, on va le voir plus tard. Par sa mort, donc Jésus, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles. Est-ce que vous êtes reconnaissant que Dieu a rendu sans effet la loi, que la loi ne me disqualifie plus d'avoir une relation avec Dieu ? Afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Voilà ce qu'est l'Église. C'est les peuples de la terre entière qui ont été rassemblés. Et Jésus, à travers l'Église, établit la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il répète, en détruisant par elle la haine, par la croix. Et dans un seul corps qui est l'Église. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints. L'Église, c'est le mot ecclésia en grec qui veut dire assemblée. Quand les croyants, quand ceux qui ont placé leur espoir, c'est ça croire. Croire, c'est placer son espoir en quelque chose. Quand ceux qui ont placé leur espoir en Christ s'assemblent, c'est l'Ecclésia, c'est l'Église. Et on n'en fait pas partie que le dimanche matin, tout au long de la semaine, 24 heures sur 24. Nous faisons partie de cette glorieuse Église du Père. Et on voit sur ce logo qui est très intéressant, la croix qui est au centre. On a vu que c'est par la croix que Jésus a rassemblé l'humanité à lui, qu'il a créé. Même la Bible va jusqu'à dire que Jésus a créé une nouvelle humanité un nouveau peuple qui lui appartient. Par la croix, Jésus a créé une nouvelle humanité. Et ça, ça représente, je pense, hein, selon mon... C'est Tristan qui l'a fait, mais... Mon interprétation, les quatre murs de l'Église qui éclatent. L'Église, ce n'est pas les quatre murs d'un bâtiment. L'Église, c'est l'Esprit, la vérité qui est en nous. L'Église, c'est nous. Où que nous allions. Donc, il est venu annoncer, ça je l'ai lu, verset 19. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. » La famille de Dieu. C'est ça qu'est l'Église. C'est une famille, des frères et des sœurs. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, donc l'Église, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes maintenant l'habitation du Dieu vivant sur terre. C'est ça la valeur de l'Église. Est-ce que vous voyez ce... La Bible parle de l'Église comme étant un mystère. C'est tellement grand ce que Dieu a fait en l'Église. Nous sommes l'épouse de Christ. Dieu nous aime comme il aime Jésus. Et Jésus nous aime comme il s'aime lui-même. Et il nous aime inconditionnellement parce que nous sommes son propre corps. Et vous savez, aller à l'Église et servir dans une Église, dans la vie d'un chrétien, c'est un signe de maturité. La Bible dit que comme le fer aiguise le fer, l'homme aiguise l'homme. C'est que être sur Internet, écouter tous ces messages sur Internet, ne pas aller dans cette assemblée, dans cette ecclésia, ne vous fera pas évoluer au même point que de se rassembler, de se laisser aiguiser par d'autres hommes et d'autres femmes. L'homme aiguise l'homme. À son contact, on se rend meilleur. Okay? Donc, il faut qu'on découvre, qu'on redonne cette valeur, la valeur au message de l'Évangile, la valeur qui lui revient. Et le fait que ce message est complètement unique. Il n'a jamais été prêché ailleurs que dans l'Église, que par l'Église. C'est extrêmement, extrêmement précieux. Donc on va lire maintenant 1 Timothée chapitre 3, versets 13 à 15. 1 Timothée chapitre 3, versets 13 à 15. Qui est-ce qui veut, ici, plus d'assurance, plus d'hardiesse dans sa foi? Alors, on pense que, bon, si je vais à l'église, Dieu fera plus de choses pour moi. Dieu me verra sous un meilleur angle. J'aurai plus de faveurs, je mériterai davantage de bénédictions. Erreur, c'est totalement faux, ça va à l'encontre du message de l'Évangile. Nous ne sommes plus sous un système méritoire, mais par Christ, nous avons accès à tout ce que Jésus a accompli à la croix. La grâce de Dieu, c'est tout ce que Dieu nous a donné à la croix. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et il nous a donné le salut, qui est le mot sozo en grec. Ce n'est pas seulement le pardon des péchés. C'est la paix, la joie, la guérison, l'appel, le fait que Dieu nous utilise, tout ça c'est par grâce. Est-ce que vous savez que tout dans la vie chrétienne est donné par grâce? Souvent, il y a beaucoup d'églises qui pensent prêcher la grâce, mais ils ne prêchent que le pardon gratuit des péchés. Et ça, ce n'est pas la grâce. C'est une toute petite partie de la grâce, donc qui est très importante, mais ce n'est pas tout ce qu'il y a à la grâce. La grâce, le message, ils pensent que voilà, Dieu nous rachète gratuitement de nos péchés, il nous a pardonné nos péchés, mais une fois qu'on est pardonné, alors on doit tout mériter. On doit mériter l'approbation de Dieu, on doit mériter la bénédiction de Dieu. C'est faux. Dans la vie chrétienne avec Dieu, par ce qu'a fait Jésus, nous ne sommes pas que sauvés par grâce, on est aussi aimés par grâce, on est utilisés par grâce, on est envoyés par grâce, on est équipés par grâce. Et la grâce, c'est un don gratuit, c'est un cadeau. Est-ce que si je vous fais... Et la Bible compare le cadeau et le salaire. Le salut, ce n'est pas un salaire. Ce n'est pas quelque chose que je dois mériter. Le salut, c'est un cadeau. Si je vous donne quelque chose, si je vous fais un cadeau à Noël, à votre anniversaire ou peu importe pendant à quelle période de l'année, vous n'avez pas à le mériter. Ce n'est pas un salaire. Si vous le méritez, c'est un salaire. Si vous avez à le mériter, c'est un salaire. Mais non, c'est un don. gratuit. Le don gratuit de Dieu, c'est ce salut. 1 Timothée chapitre 3, versets 13 à 15. Donc, qui veut, donc une, encore une fois, voilà. Et votre foi vous sert à acquérir, à vous saisir de ce que Jésus a fait à la croix, de la grâce de Dieu. Donc, 1 Timothée chapitre 3, versets 13 à 15 dit « En effet, ceux qui ont bien rempli leur service gagnent l'estime de tous. » L'estime de Dieu ? Non. L'estime de tous et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Vous voulez une grande assurance dans votre foi ? Alors servez. Mettez-vous au contact des autres hommes, des autres femmes, pour que le fer aiguise le fer, pour que vous croissiez avec tout le corps. Sans ça, votre croissance en sera grandement affectée. Sans ça, votre hardiesse dans la foi, votre assurance pour vous saisir de tout ce que Dieu a fait à la croix, en sera affectée. Ce n'est pas Dieu qui vous donnera moins, c'est vous qui serez moins en capacité de recevoir, de vous saisir de ce que Dieu a fait à la croix. Je répète ce verset parce qu'il est extrêmement important. En effet, ceux qui ont bien rempli leur service gagnent l'estime de tous et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris cela avec l'espoir de te rejoindre bientôt. Et verset 15, « Cependant, si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. » Et je trouve que c'est merveilleux. L'Église est la maison du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. Et la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors souvent les chrétiens disent, ah oui, mais tu vois, moi j'ai accepté Jésus, mais je ne me sens pas libre dans tous les domaines. C'est la vérité que tu connais qui te rend libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et le dernier passage, c'est Matthieu chapitre 5, Matthieu 12, 50. C'est Jésus qui parle et je trouve que c'est bien de terminer sur une parole de Jésus. Matthieu chapitre 12, verset 50. Qui était la famille de Jésus ? Matthieu 12, 50 dit, c'est Jésus qui dit, « En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Nous sommes une famille. L'Église est une famille. Et c'est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas une obligation d'aller à l'Église, ce n'est pas une obligation de servir à l'Église. C'est un privilège, un vrai privilège. On fait partie de quelque chose qui est bien plus grand que nous-mêmes, qui est bien plus grand que notre propre vie. Amen. Merci Seigneur. Donc merci encore pour le privilège d'avoir pu apporter la parole. Bon anniversaire à Baptiste. C'était le 31 octobre et on l'a célébré tous ensemble en famille. Et bon anniversaire à Caleb. C'est aujourd'hui son anniversaire. Voilà, je voulais mentionner ça. Voilà. Merci beaucoup.
Bien, merci. Merci beaucoup. Ouais, la Bible nous dit, vous savez, que l'Église est un mystère. Donc, si les gens ne comprennent pas pourquoi vous allez à l'Église, il ne faut pas trop se demander pourquoi, parce que la Bible dit que l'Église est un mystère. C'est-à-dire que il y a l'Église, normalement, il y a le seul chef, c'est Jésus, qu'on ne voit pas. Ben, imaginez un peu. Les gens qui suivent quelqu'un qu'ils ne voient pas. Et puis qui appellent frères et sœurs des gens qu'ils ne connaissent pas, qui sont en Asie, par exemple. On dit ils sont... Hein. Et tout cela a à voir avec les changements qui se sont produits dans le cœur des gens quand Jésus a été accepté. Le miracle, c'est que le Saint-Esprit, quand quelqu'un accepte Jésus, le Saint-Esprit incorpore cette personne à l'ensemble du corps universel, de l'Église universelle, dont une partie est sur terre et une autre est déjà au ciel. Une partie de la famille est au ciel, une partie est sur terre, et ce qui nous unit, c'est Jésus-Christ. C'est géant. Merci Martin. Merci Martin. Alors, je ne sais pas s'il pleut, s'il ne pleut pas, mais il va faire beau cet après-midi. Mais de toute façon, nous célébrerons notre culte de Noël dans le local. Amen. Amen. Alors, encore merci aux personnes qui nous ont rendu visite. Et puis, à toutes les mamans enceintes au milieu de nous, eh bien, soyez fortifiées. Je ne sais pas si Sandrine est toujours là ou pas. Est-ce qu'elle est déjà partie? Ça, elle n'entendait plus, ça a coupé, d'accord. En tout cas, ça a coupé le cordon, dit Marc. Prions. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions. Nous sommes venus t'honorer, mon Dieu, ensemble. Et tu as dit que celui qui t'honore, tu l'honores. Aussi, Seigneur, eh bien, pendant ces jours, cette semaine qui est à venir, eh bien, nous te remercions de ce que tu vas nous bénir. Tu es celui qui va nous accompagner, nous révéler ta main dans les circonstances de notre vie. Et Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui doivent retourner, Seigneur, prendre la route, utiliser tous les moyens de transport et dans le nom de Jésus, qu'elles, ces personnes soient gardées, protégées. Tu dis que tu gardes notre arrivée et notre départ. Eh bien, qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus, amen. Bon dimanche.